Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Liban est en très grande difficulté économique et sociale. Selon les Nations Unies, plus de la moitié des 4 millions de Libanais vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Depuis l'éclatement de la révolution en octobre 2019, la livre libanaise a perdu l'essentiel de sa valeur par rapport aux grandes monnaies comme le dollar ou l'euro. Et les explosions de l'an dernier dans le port de Beyrouth n'ont évidemment rien arrangé. Un an après cet événement tragique et meurtrier, nous avons rencontré dans la capitale libanaise Pierre Issa, très engagé dans l'action sociale avec son ONG Arc-en-Ciel et désormais dans la politique puisqu'il est secrétaire général du parti d'opposition Bloc National. Avec lui, nous faisons le point sur la situation dans son pays et les perspectives de sortie de crise, s'il y en a. Bonjour Pierre Issa.
Bonjour Éric Bataillon.
Cofondateur de l'association Arc-en-Ciel, une structure de l'économie sociale libanaise, et on y reviendra, vous êtes également secrétaire général du Bloc National, ce qui marque d'ailleurs peut-être votre engagement dans le domaine politique. Pierre Issa, le 17 octobre 2019, une centaine de Béroutins ont manifesté contre les impôts proposés, en bloquant notamment des rues très importantes qui relient les deux côtés de la capitale. Est-ce que cette date, selon vous, a marqué un réveil de la société civile libanaise ?
Tout à fait. D'ailleurs, les manifestations qui ont suivi ont prouvé, de par leur ampleur et surtout du fait qu'elles étaient réellement nationales cette fois. Ça veut dire que toutes les barrières, on a eu, comme vous le savez, des années de guerre, des décennies de guerre où il y avait des barrières physiques. Mais ces barrières physiques ne sont pas tombées, elles sont restées psychologiquement et les gens restaient dans leur région et ainsi de suite. Et ce 17 octobre a vraiment fait tomber toutes les barrières et les Libanais se sont rendus compte que, en fait, ils n'étaient pas un magma ou un assemblage de communautés différentes, que l'homo libanicus existe, que nous sommes tous pareils, que le sunnite libanais ressemble beaucoup plus aux chiites, aux chrétiens, aux druzes libanais qu'il ne ressemble à n'importe quel autre sunnite dans le Golfe ou dans le Maghreb. Pareil pour les chiites qui ressemblent aux autres Libanais des autres communautés, beaucoup plus qu'ils ne ressemblent aux chiites d'Iran, d'Irak ou du Bahreïn. Et pareil pour les chrétiens qui ressemblent beaucoup plus aux Libanais des autres communautés qu'ils ne ressemblent aux chrétiens d'Orient ou d'Occident. Et donc, c'est comme si c'était une révélation après 45 ans de cette séparation où les gens se sont rendus compte que nous sommes un même peuple, que nous sommes unis et qu'on peut faire des choses ensemble finalement et que nous ne sommes pas condamnés ad vitam à vivre dans ces mini-États qui constituent un non-État. Et qu'il y a l'espoir de construire un État, un vrai, qui protège tous ses citoyens et qu'on n'a plus besoin d'avoir recours à nos communautés ou aux leaders de nos communautés pour nous protéger.
Donc une sorte d'éveil à une conscience libanaise entière.
Tout à fait. On peut résumer ça comme ça. Les Libanais se sont réveillés comme citoyens libanais et plus comme membres de leur communauté, ce que les leaders politiques ont toujours voulu leur faire croire.
Alors justement, ce réveil de la société libanaise, peut-on considérer qu'il s'est assoupi ?
Le réveil s'est assoupi ? Là, non. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est un ras-le-bol. On a tendance à vouloir faire passer la révolution, ce qui s'est passé le 17 octobre et qu'on appelle la révolution, comme si c'était une personne morale, comme si c'était un courant ou un parti politique. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, une sorte de ras-le-bol exprimé par tous les citoyens, de l'extrême nord à l'extrême sud, toutes les générations, toutes les classes sociales et même toutes les tendances politiques. Tout le monde exprimait ce ras-le-bol. Et ce n'est en aucun cas une personne morale qu'on peut considérer comme étant l'opposition. Et ce que les partis politiques veulent faire croire et dire, c'est la révolution s'est assoupie ou pas assoupie. D'abord, la révolution n'est pas une personne morale. Il y a différentes façons d'exprimer. Le ras-le-bol est toujours là. Il est même encore plus grand. Et il est en train de s'organiser en opposition réellement politique plutôt qu'en expression comme ça, spontané du ras-le-bol.
Alors justement, est-ce que cette explosion dans le port a encouragé, a favorisé une expression citoyenne plus forte ou au contraire, est-ce que ça a freiné ce mouvement ?
Écoutez, normalement, c'était de nature à favoriser une expression citoyenne encore plus forte. Et d'ailleurs, quand on voit après le 4 août comment la solidarité s'est exprimée. Moi, je peux vous dire, nous sommes dans un quartier qui a été directement touché par cette explosion du port. Je peux vous dire que dès le lendemain, moi-même, j'ai été touché. Nous étions déjà dans la rue, on a organisé le travail. Je peux vous dire que ça venait de tous les coins du pays. Et toutes les générations, et toutes les classes sociales, et toutes les tendances politiques étaient là par solidarité. Donc c'était une autre forme d'expression de cette citoyenneté. Malheureusement, Ce qu'il y a, c'est la réaction des partis au pouvoir, des leaders communautaires qui sont au pouvoir, où ils ont essayé par tous les moyens d'empêcher cette unification, d'empêcher cette conscience citoyenne et de ramener chacun dans son soi-disant camp, ce qu'on leur a fait croire comme étant leur camp. Et il y a eu de la répression physique extrêmement violente. Il y a eu beaucoup d'autres moyens. Certains ont essayé de se positionner comme eux-mêmes faisant partie du mouvement pour le changement, etc. Il y a eu toutes sortes d'essais de récupération d'un côté et de répression de l'autre. Et ça a changé la nature de l'expression de cette conscience citoyenne, mais ça n'a rien changé dans le fond. Cette conscience citoyenne, elle est là et elle va le rester.
Vous-même, vous l'avez dit, vous avez été touché par cette explosion. Vous habitez un appartement qui est à peu près à un kilomètre environ du port. Quel souvenir gardez-vous précisément et quel sentiment vous a donné cette explosion dans le port qui était une explosion inattendue, évidemment?
C'était tout à fait inattendu. Je suis de la génération qui a vécu toutes les périodes de la guerre, malheureusement. Et donc, des explosions, nous en avons vécu, et des situations de guerre, nous en avons vécu. Mais ça avait quand même une particularité, parce que toutes les expressions de violence que nous avons expérimenté jusque-là, elles étaient plus ou moins préparées, on s'y attendait, il y avait une tension politique, il y avait une agressivité dans le discours politique, etc. À la lecture des événements, on savait qu'il allait y avoir des explosions pour des assassinats politiques ou des explosions de violence entre deux camps, etc. Mais là, c'est venu comme ça, soudainement, rien du tout. Il y a eu des explosions soudaines, mais c'était un assassinat politique ou autre, et on aurait pu le prévoir parce qu'il y avait de la tension avant. Il y a de la tension ici, mais la grande différence, d'abord, c'est dans la taille. Ça a démoli la moitié de Beyrouth quand même. Il y a eu plus de 200 morts, plus de 7000 blessés et des centaines de milliers de déplacés. L'ampleur, en 10 secondes, il y a eu des dégâts autant que 2 années de guerre ou que 3 années de guerre au Liban. Le plus terrible, c'est que chaque fois qu'il y avait des événements violents comme ça, il y avait des revendications et des accusations, etc. Et là, le ciel nous est tombé sur la tête et personne n'a revendiqué et personne n'a accusé personne. Donc, de là où d'habitude, les malheurs que nous avons dans ce pays sont automatiquement imputés à l'ennemi israélien, etc. Là, on a vu même le Hezbollah qui a l'habitude, pour un oui et pour un non, d'accuser Israël. Personne n'accusait personne. 2, on ne savait pas d'où ça venait. C'était extrêmement violent. Et on s'est retrouvé un peu dans la situation des Gaulois qui ont peur d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et le ciel nous est tombé sur la tête. Et je pense que l'impact psychologique va rester très longtemps après l'impact socio-économique et après l'impact physique qu'il y a eu sur le moment même.
Est-ce que cette explosion du 4 août 2020, elle est une conséquence d'une crise économique et peut-être institutionnelle plus large, ou au contraire une cause de la situation d'aujourd'hui au Liban, qui est une situation quand même très très difficile pour les Libanais?
Certainement pas la cause. Ça a probablement aggravé la situation, évidemment, mais ça n'en est certainement pas la cause. C'est certainement les conséquences de la gestion politique de ce pays, de la relation de la communauté internationale avec ce pays, laquelle communauté internationale, consciemment ou inconsciemment, est en train de faire le jeu des leaders communautaires qui nous ont amenés là où nous sommes. Et pendant très longtemps, cette communauté internationale, peut-être bien intentionnée, souvent mal intentionnée, a favorisé cette dictature qui est une sorte de dictature pernicieuse, si vous voulez. Dans les dictatures, vous avez un dictateur, et puis quand il y a un soulèvement contre le dictateur, on tape dessus et il finit par tomber. Ici, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est une dictature à 6 têtes, et 6 têtes communautaires, etc., avec tout un travail, ils ont investi dans le discours, le narratif identitaire, et ainsi de suite, qui fait que quand vous tapez sur l'un, ça renforce l'autre, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, quand ils trouvent personne pour leur taper dessus, ils se tapent dessus entre eux parce qu'ils savent que ça les renforce chacun dans son camp. Et la communauté internationale a souvent joué ce jeu, en le sachant ou pas, et je ne pense pas que ça favorise l'accélération d'une solution au Liban. Il faudrait que la communauté internationale change l'approche qu'elle a de la crise libanaise.
Orient Hebdo sur RFI.
Alors, on reparlera peut-être de la conférence internationale pour l'aide au Liban, notamment diligentée par la France et par les Nations Unies. Mais les Libanais attendent clairement du changement, évidemment, depuis 2019. De quel type changement veulent-ils précisément et pourquoi est-ce si long ?
Alors, je vais vous dire, d'abord, il y a 45 ans, depuis 1975, les partis au pouvoir, les partis miliciens, les partis communautaires ont envahi tout l'espace public. Ils ont tout envahi, même les corps constitués intermédiaires, dont le but est de faire l'intermédiation entre le citoyen et le pouvoir quand il y a problème. Ils ont, d'ailleurs, vous avez parlé de cette révolution qui a commencé avec les taxations, etc. On a appelé ça la révolution des affamés. On n'a pas vu une seule fois les syndicats ouvriers ou la fédération des syndicats ouvriers se manifester, parce qu'ils sont phagocytés par les partis communautaires au pouvoir. Et donc, l'expression qu'il y a eu dans ce 17 octobre, de façon explicite ou implicite, je vais vous dire, ce qui est demandé est le grand changement. Les citoyens, aujourd'hui, veulent que la citoyenneté l'emporte sur le confessionnalisme, que l'état de droit l'emporte sur le clientélisme, que l'intégrité l'emporte sur la corruption, que la souveraineté l'emporte sur le suivisme et que la démocratie l'emporte sur le zaïma en mode de leadership et le féodalisme politique. C'est ça le changement qui est attendu, et ces cinq vertus qui doivent l'emporter sur les cinq plaies de la vie politique au Liban, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un héritage que nous avons du temps des Ottomans, et ensuite avec le Grand Liban, ça a 100 ans d'âge, ça ne va pas se changer du jour au lendemain, mais le changement est inéluctable, il est en train de se construire, et c'est en train d'arriver. Pour ce qui est du changement des partis au pouvoir, et parce que notre système est ce qu'il est, c'était un contrat social entre communautés confessionnelles plutôt que d'avoir un contrat social entre le citoyen et l'État directement. Ça aussi, ça a 100 ans d'âge, ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais le changement est inéluctable. Et là, il y a eu une accélération, mais une accélération très importante. Très importante parce qu'il y a la maturité politique. La peur est tombée, la peur de l'autre est tombée, les barrières psychologiques ou physiques entre les régions sont tombées, c'est un facteur d'accélération. Les réseaux sociaux et la facilité de communiquer est un autre facteur, bien que eux savent l'utiliser aussi pour la contre-révolution, mais le changement est inéluctable.
Et est-ce que la conférence internationale pour l'aide au Liban peut contribuer à ces changements ?
Certainement, encore une fois, c'est l'appréhension ou l'approche de la communauté internationale par rapport au Liban. Jusque-là, c'est toujours parti d'un bon sentiment, et puis une conférence internationale pour aider le Liban, etc., c'est nécessairement à connotation positive. Ce qui s'est passé, vous prenez par exemple la conférence CEDRE, initiée par la France pour ça, elle est tombée dans le timing juste avant les élections de 2018. Depuis 2011, il y a des mouvements citoyens, etc., qui sont montants. Eh bien, la conférence CEDRE est venue remettre en selle parce qu'elle a été organisée juste avant les élections. Après le 17 octobre, quand le premier gouvernement est tombé, etc., la France a aussi essayé d'organiser une autre conférence pour, encore une fois, remettre en selle. Est-ce que c'était volontaire ou pas volontaire ? En tout cas, c'était l'effet escompté. Et si on prend l'intérêt du Liban bien compris et des citoyens libanais bien compris, ces conférences-là ont été à l'encontre de l'intérêt bien compris du Liban et des Libanais. Surtout que c'était de grosses sommes qui étaient allouées au Liban, etc., qui étaient gérées par une kleptocratie qui s'est transformée en kleptocratie, vétocratie, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, et ça a surchargé le Liban de dettes qui ont, entre autres, causé la crise économique et sociale que nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, la dernière fois, quand M. Macron est venu au Liban, il a dit que les aides au Liban après le 4 août ne passeraient pas par l'État, parce qu'ils n'avaient pas confiance et parce qu'ils étaient corrompus. Mais malheureusement, dans le même discours, et son initiative, c'était d'appeler à de nouveau un gouvernement d'union nationale. Ces gouvernements d'union nationale qui nous ont fait arriver à cette faillite-là. Donc, on ne leur fait pas confiance pour gérer quelques millions d'euros d'aide au Liban, mais on leur fait confiance pour leur redonner l'avenir du Liban et des Libanais entre les mains. Donc, il y avait quelque chose, une sorte de schizophrénie dans cette attitude, et j'espère que maintenant, les conférences pour le Liban essayeront de prendre en considération l'intérêt bien compris du Liban et des Libanais pour que ça puisse payer et que la communauté internationale retrouve un partenaire digne de confiance. Parce que jusque-là, s'ils se contentaient des partenaires qu'ils avaient, qui en fait, sont assez à l'avantage de la communauté internationale, parce qu'on serait soi-même responsable dans un pays qui veut négocier avec le Liban. On a plus intérêt à avoir des corrompus qui vont défendre leurs intérêts privés de corrompus au pouvoir plutôt que de défendre les intérêts bien compris du pays. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont devenus totalement incapables. Après avoir été capables de tout faire, etc., ils avaient tout le pays sous leur coupe. Aujourd'hui, ils sont incapables de former un gouvernement, de prendre n'importe quelle décision, de faire un capital contrôle ou quoi que ce soit. La communauté internationale devrait sérieusement penser à une alternative. Et cette alternative est en train de se construire. Après avoir eu des décennies sans opposition organisée, aujourd'hui, il y a une opposition organisée et ça peut être une alternative crédible.
Justement, Pierre Issa, vous êtes secrétaire général du Bloc National. C'est un parti qui était moribond, on peut le dire, ces 10 dernières années, mais qui revient en quelque sorte sur le devant de la scène depuis 2019, en fait. Est-ce que votre parti est en phase avec ces changements qui sont attendus par la société civile libanaise ?
Tout à fait. D'abord, le parti est historique. Il a eu des traversées du désert, comme vous le dites, mais c'est à son corps défendant. Vous savez qu'au début de la guerre, le chef du parti a l'époque, a subi 3 tentatives d'assassinat et 2 fois il a été physiquement touché et a été obligé d'aller en France. Donc ces traversées du désert ont été imposées par cette oligarchie au pouvoir, par ces leaders communautaires qui sont au pouvoir et à la tête de milices armées qui ont fait subir plusieurs guerres au Liban. Ceci dit, depuis la relance du Bloc national, nous n'avons rien changé dans les principes et les valeurs. Le Bloc n'a jamais été un projet de parti ou de zaïm ou de leader, etc. C'est un projet de construire un État, et un État un vrai. Un vrai. On a toujours travaillé, milité, d'ailleurs l'historique du parti le dit, toutes les lois que nous avons fait passer vont dans le sens de la citoyenneté plutôt que le confessionnalisme, de l'état de droit, de l'intégrité, etc. Et aujourd'hui on a repris ces mêmes valeurs, on a modernisé, on utilise une nouvelle structure, une nouvelle organisation avec de nouveaux moyens, etc. Mais les objectifs sont les mêmes. Construire un État réel et pas un groupement de communautés confessionnelles, avec une relation directe avec le citoyen, les valeurs de tout temps, etc. Et c'est pourquoi, alors que dans la révolution du 17 octobre, comme il n'y a pas d'opposition organisée, et comme en 45 ans, dans la tête des gens, les partis politiques et l'action politique égale milices, guerre, armes, tuerie, corruption, etc., dans la tête des gens, la politique c'est quelque chose de pas bien, et les partis politiques, c'est encore moins bien. Le Bloc national, qui est un parti traditionnel, depuis les premiers jours de la Révolution, était au cœur de cette Révolution et très bien accepté. Et les gens sont en train d'avoir un peu plus de maturité politique et de comprendre que s'il y a 6 mauvais partis politiques, la politique n'est pas quelque chose de mauvaise dans l'absolu, et les partis politiques encore moins. On disait toujours, s'il y a 6 mauvais médecins, on n'arrête pas d'étudier la médecine. Il faut du temps, et c'est en train d'avoir une accélération. J'ai vu beaucoup de groupes de jeunes qui combattaient et qui critiquaient les partis politiques, qui aujourd'hui sont en train de se constituer en partis politiques. Et c'est un indicateur très important pour l'avenir de notre vie politique au Liban.
Justement, comment voyez-vous l'émergence de certaines plateformes citoyennes aujourd'hui qui voudraient participer au débat politique ?
C'est essentiel et c'est vital pour notre société. D'autres partis politiques ont pris comme approche d'essayer d'inclure et d'intégrer tous ces groupes, tous ces mouvements. Nous avons adopté une autre approche, une approche d'incubateur, si vous voulez, pour encourager les jeunes à créer des plateformes et éventuellement des partis politiques. Et certains l'ont fait. Et je pense que c'est essentiel si on veut changer le mode de fonctionnement et la perception de l'action politique et de l'action citoyenne, c'est un passage obligé. Quand vous avez une cause qui est juste, vous faites une ONG de revendication. Quand vous voulez aider un groupe cible particulier, vous faites une ONG de service. Et quand vous voulez changer de régime, vous faites un parti politique.
Merci Pierre Issa.
Merci à vous Éric Bataillon.
Cofondateur de l'association Arc-en-Ciel et secrétaire général du Bloc National, parti politique libanais laïque, social, démocrate et aconfessionnel. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golchani que vous pourrez réécouter sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, second épisode de notre série consacrée à une histoire arabe du pétrole. Nous explorons les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur l'économie pétrolière arabe. À demain, tout de suite, le journal.
Géopolitique, le débat.